éditorial de site web. C'est-à-dire que je m'occupe spécifiquement du contenu, de ce qu'on appelle le contenu et surtout...
Des questions ?
Et surtout, comment on l'organise en fonction des attentes, des besoins et surtout de ce qu'on veut dire quand on produit un site, quand on conçoit un site internet. Donc, le titre de la conférence est maintenant « Qu'est-ce qu'on met dedans ?» C'était un peu vraiment un clin d'œil par rapport au cadre général où je crois qu'on parle beaucoup du contenant et de comment améliorer techniquement les fonctionnalités, améliorer le graphisme d'un site. Et je pense que de temps en temps aussi, c'est bien de pouvoir... C'est le deuxième effet qui se coule. Donc je pense que c'est bon aussi de pouvoir de temps en temps parler de ce qu'on met dedans, quoi, hein, du contenu. Je vais parler surtout des sites à caractère informatif, c'est-à-dire je ne vais pas parler des sites artistiques ou des choses comme ça, parce que c'est un objet un peu à part, enfin en soi, mais à caractère informatif, information pas au sens de presse, bien que je sois journaliste et donc je suis un peu influencée par ça, mais informatif, ça peut être donc... ça peut être des sites commerciaux, ça peut être des sites associatifs, ça peut être des sites ou de presse, mais en tout cas des sites qui véhiculent de l'information. Donc, je vais donc parler non pas du contenu, mais des contenus, parce que je pense que les contenus, c'est quelque chose qui est extrêmement divers, que ce soit, ça dépend des sites, ça dépend des gens à qui on s'adresse. Ça dépend des messages qu'on a à faire passer. Donc on a des contenus, certains appellent ça du rédactionnel, je préfère parler des contenus. Des contenus pour qu'ils servent, ça a l'air d'une bonne grosse lapalissade, c'en est une. Mais il y a quelques repères à avoir pour être sûr que le message qu'on veut faire passer atteint la bonne cible ou au moins va dans la bonne direction et répond à des attentes. Et ces contenus, on ne peut les concevoir, les imaginer, que dans la perspective d'une relation avec le lecteur. Et moi, je parle de lecteur de site internet. Je ne parle pas forcément d'internaute ou de visiteur. Je préfère parler de lecteur parce qu'on est vraiment dans une situation de lecture. La lecture, ça peut être une lecture zap, très rapide, mais ça peut être aussi un investissement, quelque chose où on se pose, on a besoin d'avoir de l'information justement pour avancer, pour comprendre. Donc pour moi, l'internaute est un lecteur. Donc c'est vraiment, je crois qu'il faut vraiment construire une relation avec les gens qui viennent sur le site, les gens qu'on veut faire venir sur le site. Donc il faut leur proposer des contenus adaptés. J'ai commencé par, on parle aussi beaucoup de données. Alors, de données, non pas au sens informatique, mais plus au sens informatif. C'est-à-dire, donc là, j'ai trouvé deux petites définitions. Une donnée, c'est vraiment c'est un fait. C'est ce qui est admis et ce qui va donner matière à un raisonnement scientifique, par exemple. C'est juste un fait. C'est juste une petite chose qui parle toute seule, on va dire. Et c'est différent d'une information. Une information, c'est quelque chose qu'on va porter à la connaissance du public, mais qui est enrichi. C'est-à-dire que pour que la donnée devienne une information, il va falloir qu'on l'accompagne. On va donner un accompagnement. Il faut mettre une mise en perspective de cette donnée, un accompagnement, une scénarisation. Si je vous dis, par exemple, que le baril du brut fait 93 $ aujourd'hui, c'est une donnée. Ça ne va pas vous dire forcément grand-chose. Si je vous dis que, par contre, si je rajoute qu'il y a eu une augmentation de 2,35% et que les experts s'attendent encore à avoir des augmentations dans les semaines qui viennent, et d'ailleurs les bourses ont réagi, là on commence à avoir une information. On est passé d'un fait simple à un ensemble de choses qui commencent à s'organiser et qui vont donner une matière à réfléchir, à avancer. Et pour ça, j'ai pris juste deux exemples que je voulais vous montrer, j'espère que ça marche, qui étaient... Je suppose que vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Sans le son, c'est dommage. Alors, je voulais juste regarder ça. C'est assez court. Voilà. Ça fait, je crois que ça fait 12 secondes. Et c'est l'altercation entre Hugo Chavez et Juan Carlos, le roi d'Espagne. Vous en avez entendu parler ? Oui, ça va. Où le roi d'Espagne a fait une sortie en disant « ¿Por qué no te callas ?»« Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas ?» Donc ça a fait matière à... Ça a fait bouger dans le... pas dans l'Anderno, mais vraiment dans le monde politique. Et là, on a sur YouTube... Il vous en plaît. Sur YouTube, on a une donnée. On a cet extrait, on a ces 12 secondes où on voit, et parfois on entend même, donc Chavez parler et Juan Carlos intervenir. Bon, c'est une donnée. Cette donnée va devenir une information. Par exemple, lorsque la même vidéo sur le site de 20 minutes, par exemple, est déjà là mise dans un certain contexte, avec donc le sommet ibéro-américain qui s'achève sur une altercation entre Chavez et les Espagnols, on a un titre qui va introduire un article, et cette vidéo est insérée dans l'article. C'est grosso modo la même. Il y a du son maintenant ? Donc c'est grosso modo la même. Ils disent la même chose et vous ne les entendrez pas. Mais vous voyez que quand je dis qu'elle est insérée, elle est vraiment amenée. Elle va être mise dans le contexte. Ce n'est pas juste quelque chose qui est balancé comme ça. Je vais comprendre, en lisant cet article, théoriquement, qu'est-ce qui a déclenché cette altercation assez inhabituelle dans un sommet plutôt policé en général. D'une part, donc c'est sur le fait que Hugo Chavez a dit que l'ancien Premier ministre espagnol était un fasciste. Donc voilà, ça n'a pas plu du tout ni à Zapatero ni au roi qui sont intervenus. Bon, ça, donc, ça on me le dit, hein, plus précisément, parce que moi, je ne connais pas bien la politique intérieure espagnole. Et en plus, on va peut-être m'expliquer les enjeux un peu plus généraux sur les rapports entre, par exemple, l'Espagne et l'Amérique latine et ce qui est en train de se passer en ce moment. Voilà. Donc là, j'ai autre chose. Cette donnée, cette vidéo devient une partie d'une information plus large, et qui est contextualisée. Et si je reprends la même vidéo, un peu plus tard, deux, trois jours après, sur le même site d'information, donc toujours 20 minutes, là, elle est traitée sous un autre angle journalistique, pour le coup, où là, on s'aperçoit que ça devient un tube dans les sonneries de portable, le « ¿Por qué no te calles ?» C'est une sonnerie de portable, c'est sur YouTube justement, donc on retrouve la même vidéo, et d'autres avec un peu de techno par derrière, enfin des trucs voilà, plutôt marrant. Donc un autre angle, mais a priori, voilà, toujours la même vidéo qui est là. Donc voilà, c'était pour montrer justement cette idée de une donnée, un fait brut et la contextualisation sur un site internet. Alors maintenant, je m'échappe de cette chose. Je reviens là. Ce qui a été fait là, c'est ce que moi j'appelle, je ne suis pas la seule, la scénarisation d'un sujet. C'est-à-dire que sur Internet, on va proposer des lectures. Quand un sujet est un peu complexe, on va pouvoir proposer des lectures spécifiques de ce sujet. Et donc, on va le scénariser de manière à... Quand je dis vraiment une lecture, c'est vraiment ça. Hein. Comme, si vous voulez, comme, c'est une analogie aussi avec la presse. Un journal, ce n'est pas juste des feuilles agrafées les unes derrière les autres. Voilà, votre journal du matin, votre quotidien, ce n'est pas que ça. Un journal, il est conçu pour vous emmener dans une lecture. À partir de la une... Hein, du journal, ou voir de la DER, donc la dernière page, parce que certains commencent à lire par la dernière page, donc par exemple Libération met un portrait en général en dernière page, Le Parisien met des infos pratiques, des choses comme ça. Donc vraiment la lecture, est construite de la première ou de la dernière jusqu'à un cheminement intérieur du journal. Et dans le journal, un sujet un peu complexe est contextualisé et est mis en scène. C'est la même chose sur Internet. Quand on a des choses un peu compliquées, on va pouvoir les scénariser. Ce qui veut dire aussi, c'est là où je parle aussi de le lecteur, là où il intervient, c'est qu'on va pouvoir, ce que je dis, c'est engager une conversation avec le lecteur. C'est-à-dire que votre lecteur, votre internaute, votre visiteur, quel qu'il soit, quand il arrive et que vous lui proposez un sujet, quel qu'il soit, là c'était Chavez, mais ça peut être comment bien acheter sa tondeuse à gazon ou n'importe quoi. Mais vous ne savez pas son niveau de connaissance du sujet à l'avance. C'est impossible. Donc il faut pouvoir, quand vous parlez, vous vous adressez à lui, quand vous faites un site internet, il va falloir pouvoir parler à la fois à ceux qui sont vraiment au fait de l'information et ceux qui débarquent. Et Internet permet ça. C'est-à-dire de pouvoir proposer une synthèse d'un sujet, par exemple, hein, c'est une idée, une synthèse d'un sujet en disant, bon, t'es pas au courant, tu débarques sur l'info, Juan Carlos, le roi, je te fais une petite synthèse, et ensuite, tu vas pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Ou tu connais tout sur la politique intérieure espagnole, tu rentres directement dans la polémique. Voilà. C'est ça la scénarisation et c'est ça le fait de pouvoir engager la conversation avec. Pareil pour une tondeuse à gazon, il y a les pros de la tondeuse à gazon qui vont aller directement sur une information. Arrête ton sabotage, toi. Les pros de la tondeuse à gazon qui vont aller directement au rayon tondeuse à gazon comparer les je sais pas quoi, Husqvarna, j'en sais rien. Et ceux qui vont débarquer, parce que c'est la première fois de leur vie qu'ils doivent acheter une tondeuse à gazon, et qui vont avoir besoin d'informations pour se décider à acheter une tondeuse à gazon. Avec l'analogie avec Chavez, c'est un peu... Mais bon. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer, ouais, justement, on va repasser... Sur un exemple de sujet scénarisé. Donc là, c'est Géo qui a refait son site, c'est assez récent, et qui, à mon avis, bon, il y a des igouigouis, tout ça, bon, fait des trucs plutôt intéressants. Alors, je vais skipper l'intro. Si je peux. C'était juste pour sauter l'intro. Ouais, on skip, ouais. Voilà, c'est bon, Marc, c'est bon, super. Non, c'est bon, je vais prendre celui-là, donc ça va. Je vais prendre ce sujet. Okay, merci. Donc voilà. Donc Géo fait apparemment des reportages sur le web, donc c'est un parti pris, hein, l'articulation papier reste, enfin le papier reste le Géo qu'on connaît, c'est classique, et sur le web, il y a une vraie volonté de vrais sujets internet et web. Et là, c'est une série de reportages sur Mexico, et plus précisément sur les kidnappings à Mexico. Bon. Donc je vais prendre l'histoire des taxis, pour ceux qui sont venus en taxi aujourd'hui. Et là, je vois que... On voit pas tout. Sam, comment je vais sur la droite? Parce que là, on voit pas tout le sujet. Là, on voyait un bout du sujet. Et en fait... Voilà. C'est bon. Vous voyez, là, à peu près? Ouais. Donc, vous avez un sujet qui est assez complexe sur le fond et qui est traité de manière... assez simplificatrice justement sur la forme. Donc on a d'emblée une vidéo qui se lance, bon là il n'y a pas le son mais c'est pas grave, donc c'est un reportage sur l'industrie du kidnapping par les taxis à Mexico. Bon, très bien. Et ensuite, une fois que j'ai vu ce reportage, je peux aller ici obtenir des compléments d'infos. Voilà. C'est trois infos en plus qui ne font pas partie des reportages, qui sont du plus. Voilà. ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas, mais j'ai cette possibilité-là. Et ensuite, je peux aller voir plus précisément les sources avec, par exemple, avec lesquelles les journalistes ont travaillé. Donc, où là, on voit qu'il y a des extraits, il y a la presse, etc. Donc, un autre type de document qui m'est proposé. Et si je continue, j'ai le... Alors, ce qu'ils appellent le making-of, c'est plutôt là un espèce de... On va dire de... C'est le carnet de route des journalistes. C'est-à-dire le côté plus intime de, par exemple, les trous qu'ils peuvent avoir eu pendant leur reportage, le fait qu'ils ne sont pas sortis de l'hôtel souvent, ou des choses comme ça, ou qu'ils devaient se fier à des gens dont ils ne connaissaient pas vraiment les intentions pour pouvoir interviewer d'autres personnes. Voilà, puis après, il y a la musique du film, bon, du film vidéo, la vidéo. Et puis, toute une sélection web, donc d'articles sur le web. Donc, et c'est une des trois parties de cet immense reportage. Donc, vous voyez que là, je ne connaissais pas ce sujet-là. Donc, j'ai vraiment commencé par la vidéo qui pose, en fait, le sujet, qui me donne un bon aperçu de ce qui se passe, ce que les journalistes ont vu. Et ensuite, j'ai la possibilité d'aller approfondir ma connaissance de ce sujet sur le côté. Il y a peut-être des gens qui sont déjà super spécialistes, ou des Mexicains, qui connaissent très bien ce sujet-là. Eux vont peut-être aller plus simplement directement voir les sites web en question, parce que c'est une ressource et une richesse en plus dans la lecture. Ou bien ils vont aller voir justement les pièces à conviction, là, les extraits de la presse locale. Voilà. Donc là, vous voyez que ça, c'est vraiment un sujet qui est vraiment scénarisé, donc mis en scène avec un contexte. Et on pourrait très bien avoir d'ailleurs cette vidéo là de taxi que vous voyez sur YouTube. Et puis vous avez 25 minutes de reportage sur YouTube, ce qui est tout à fait possible. Mais vous n'aurez pas la même approche ni la même connaissance qu'avec tous ces éléments-là, ces éléments de lecture qui vous sont proposés pour enrichir votre information. Alors, donc tout ça, il s'agit de construire un propos, donc, et c'est vraiment le cœur de la structuration éditoriale. C'est pas simplement faire des rubriques et mettre des objets dans les rubriques. Il y a vraiment aussi cette histoire d'engager une relation, une conversation, de parler à quelqu'un. On s'adresse, quand on fait un site internet, on s'adresse à des gens, quelqu'un, des gens. On appelle ça un public cible, par exemple, ou des lecteurs. Il peut y avoir une cible prioritaire, une cible secondaire, mais en tout cas, on s'adresse à eux, on leur parle. Donc, quand on leur parle, on fait comme... on est poli, on se présente. Mais c'est vrai, quand je dis on est poli, on se présente, c'est simplement que c'est toujours déroutant quand on est sur un site internet, ou un blog d'ailleurs, de ne pas savoir qui parle. Parce que toute la crédibilité, la valeur de l'information qu'on va lire est quand même conditionnée par l'émetteur, par celui qui la délivre. Voilà. Donc quand j'arrive sur un site internet et que je dois mettre 3 heures pour savoir qui est cette entité qui est en train de me délivrer des informations et quel crédit je peux lui donner, je suis un peu troublée. Quand on arrive sur un site internet et qu'on ne sait pas si c'est un site institutionnel, un site perso, enfin bon bref, voilà, la crédibilité, du coup, il y a un trouble ensuite dans la lecture, quand on se pose et qu'on se lit, on se pose aussi des questions sur qui parle. Une fois qu'on s'est présenté, et ben en fait, engager une conversation ou proposer une lecture, en fait, c'est assez classique. Il y a un début, un milieu et une fin, pas très original, mais enfin bon. Et donc le début, c'est toute la possibilité de pouvoir mettre en appétit la personne qui vient sur votre site. Hein, lui donner envie de d'aller un peu plus loin. Donc c'est quelque chose vraiment à creuser quand on fait la conception. Hein. Comment je capte l'attention de mon lecteur. Ensuite, c'est le milieu, c'est ce qu'on a vu un peu. Hein. Comment je construis une lecture. Comment il va s'enrichir mon lecteur dans la visite et dans la lecture de mon site et de mes informations. Et la fin, qui est quelque chose qu'on a tendance un peu toujours à oublier. La fin, c'est quand on lit un journal, c'est assez simple de voir où s'arrête l'information. En général, il y a un point et il y a la signature du journaliste. Sur un site internet, on a du mal à voir si on a fait le tour de l'information. Là, sur Géo, c'était pas mal, c'est assez clair. Je vois tous les items, tous les éléments que j'ai à lire si je veux faire le tour de la question. C'est bien structuré, c'est bien balisé, je sais où je suis et je sais à peu près où je m'arrête. Mais vu qu'on a la possibilité de faire des liens internet d'un côté, de l'autre, etc., on a parfois une lecture qui s'étiole de rebond en rebond dans d'autres pages. Alors c'est comment marquer la fin d'une lecture ou d'un propos. Et surtout, une fois qu'on a marqué la fin, qu'est-ce qu'on dit à l'interne, qu'est-ce qu'on lui donne pour passer à l'acte, pour faire quelque chose? Le lecteur, il n'est pas juste passif face à votre information. Est-ce qu'on lui donne la possibilité de laisser un commentaire? Est-ce qu'on lui dit de s'abonner à Géo? Est-ce qu'on lui dit d'envoyer des photos de son voyage à Mexico? J'en sais rien. Comment est-ce qu'on conclut cette histoire de lecture et de conversation? Ça, c'est vraiment aussi un élément important. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a un contenu qui est structuré et on retrouve donc une accroche. Voilà, donc en termes journalistiques, mais pas seulement, ça s'appelle une accroche, quelque chose qui va capter l'attention. Un argumentaire, voilà, qui développe, et puis un passage à l'acte. Passage à l'acte sympathique, donc. Hein. Quand l'internaute a terminé sa prise d'information. Donc là, je voulais vous montrer juste deux sites, du coup, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a vu avant. C'est deux sites de voyage en ligne. C'est-à-dire que quand on a la problématique de... je me mets du côté du concepteur de site. Je veux faire un site de voyage en ligne. On va pouvoir voir qu'il y a énormément de réponses parce qu'il y a énormément de lectures à proposer. De lecture pour permettre à quelqu'un d'acheter son billet d'avion ou son voyage par Internet. J'en prends un qui est assez... je ne sais pas, vous êtes déjà peut-être parti avec. C'est Promo Vacances, qui est plutôt qui marche plutôt bien, je pense. Hein, c'est un gros machin. Ça veut ? Faut cliquer ? Non. Tu rigoles. Pourtant, il me semble que c'est ce que j'ai fait. Tu veux les baffes ? Ça marche pas. Attends. Attends, elle est derrière.
Regarde, essaye comme table, tu vas voir, c'est une révélation. Oui. Regarde.
Tu vois ? C'est pas petite déméchanceté.
Mais il est où ton... T'as tout cassé. J'aime bien les vertiges aujourd'hui.
En fait, c'est pas le mien. Que j'ai pas mon promo vacances. Alors, je vais le trouver. Ah. Et ouais, mais ça c'est moi. En matière de suspense, je suis assez bonne. Vacances.com, tout d'un coup j'ai un genre de doute. Donc. Promo Vacances, qui va apparaître sous vos yeux ébahis, donc est un site de voyage en ligne. Il y a un truc qui s'est passé là. Il y a une ombre qui est passée. Il y a des flashs. Arrêtez là. Ça ne marche pas. Alors je vais sortir mes copies d'écran si j'ai plus de connexion. Oh, mais peut-être c'est possible.
Regarde tes Sam.
Non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes écrans.
Voilà, donc on va refaire un numéro de téléphone. Ah, t'as un modèle qui s'est ouvert.
J'ai pas compris ce qu'il a dit. Ah oui, on va faire un tour de questions. Des questions ?
Est-ce qu'il y a des questions en cours de
sur
route là ?
Le début de ce
Alors ne nous demandez pas pour les proxys internet, on ne sait pas faire, mais pour le reste.
Moi, je vais faire une petite remarque plus qu'une question. Et un peu le pont entre Samuel et ce que tu viens de parler. Je pense qu'il y a un métier dont on ne parle pas assez ou une fonction à laquelle on n'insiste pas souvent dans les projets web, c'est l'architecture de l'information. Et c'est très bien effectivement de travailler au contenu et notamment de faire la distinction entre l'utilisateur averti, le lecteur averti et le lecteur qui découvre entièrement le site. Mais c'est absolument primordial justement de bien travailler en termes de contenu et d'architecture d'information, parce que scénariser un contenu, il faut aussi le placer proprement à l'intérieur du site. Donc sur le site de Géo, ça va, c'est de la news, c'est relativement linéaire, tu peux faire une jolie scénarisation. Quand tu essayes de faire la même chose avec des contenus très complexes sur un site institutionnel, c'est un autre boulot. Quand c'est un site de commerce électronique, c'est encore un autre travail.
Oui, tout à fait. Architecture d'information, j'aime bien, parce qu'il y a vraiment cette notion de bâtir quelque chose qui se tient. Enfin, je veux dire, un architecte va bâtir des plans, les plans d'une maison pour quelqu'un, pour répondre à des besoins particuliers de son client. Et là, effectivement, sur l'information, c'est vraiment la même chose. Et effectivement, la scénarisation, ça peut intervenir dans vraiment beaucoup de cas. Et notamment, je pensais, on a bossé pour un labo de protéomique. Alors, protéomique, c'est l'informatique, enfin le mélange entre les protéines, quoi, et les bases de données informatiques. Bref, donc base de données informatiques de protéines du monde. Et en fait, il a fallu qu'on imagine, qu'on scénarise des cas d'études, des exemples d'utilisation de bases de données sur le site internet pour expliquer aux chercheurs qui allaient se connecter sur ce site, pour expliquer comment utiliser, comment se servir, comment reproduire des expériences déjà réalisées, etc. etc. Ça se fait aussi justement en prenant en compte tout ça, les différents niveaux, parce que tous les chercheurs ne sont pas justement au même niveau d'information sur la protéomique. Il y a les jeunes chercheurs, il y a les chercheurs plus aguerris, il y a ceux qui sont en pointe sur une info et pas une autre. Donc il a fallu aussi là-dessus, sur un sujet assez complexe et qui vraiment le demandait, établir vraiment des scénarios en fait d'utilisation donc sur le site internet de ce labo en fait, qui est un labo suisse. Voilà. Donc vraiment je crois que c'est vraiment on appelle ça conception éditoriale, mais je crois que l'architecture de l'information c'est bien aussi. Mais alors je vais vous mimer promo vacances.
Bravo.
Je suis assez forte en image de... Ce n'est pas la première fois que je fais ce genre de truc. Promo Vacances, en fait, c'est un site de voyage en ligne pas cher. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais enfin bon, déjà le nom. C'est genre, vous partez en Guadeloupe pour, je ne sais pas, 199 euros pour une semaine, quoi. Grosso modo, enfin, j'exagère un peu, mais voilà. Donc, c'est vraiment pas cher. Donc, quand vous allez sur le site de Promo Vacances, vous avez sur la une profusion d'offres. Une profusion d'offres, c'est la Guadeloupe, c'est le Mexique, c'est Tahiti, c'est la Tunisie, etc. Avec vraiment des fourchettes de prix, vous voyez que les fourchettes, c'est 100 euros, 500 euros, 600 euros, 1000 euros, enfin pas plus, quoi, hein, pour une semaine, 10 jours de vacances. Bon. Vous allez sur ce site-là, donc profusion d'offres, mais vraiment des petites choses, et tout de suite, on vous dit le prix. C'est la première chose, la première captation, c'est la petite photo du joli cocotier. Voilà. Parce que alors, de toute façon, que vous partiez en Tunisie, en Guadeloupe ou n'importe où, vous avez de la plage et du cocotier. Hein, y a pas, voilà. Mais c'est vraiment parce que vous allez sur ce site en vous disant « j'ai une semaine de vacances, j'ai pas plus de 500 euros, je veux partir au soleil voilà. ». Et vous allez sur Promo Vacances. Et à l'intérieur, vous choisissez la Guadeloupe et on va vous dire, eh ben, pour 7 jours et 9 nuits, ça sera 190 euros dans l'hôtel du Schmutz, je ne sais pas quoi, 3 étoiles, etc. Et immédiatement, donc c'est ça qu'on vous dit. Et tout de suite, on vous dit, demandez un devis ou achetez ce voyage, immédiatement. Donc, on va vous capter vraiment sur la une, sur cette profusion d'offres, sur le fait qu'il y a des bons plans, il y a des tarifs réduits, il y a des trucs cassés, il y a des machins. Vous faites votre marché là, et on vous donne à peine, l'argumentaire est très très serré, c'est vraiment le minimum du minimum, et ensuite tout de suite, allez vas-y, tu achètes ou tu demandes le devis. Et puis si tu n'es pas content, tu retournes sur la une et tu refais la Guadeloupe, Saint-Domingue, etc. Donc, c'est une boîte qui a énorme et qui achète des voyages pas chers et qui doit les vendre. Et donc ça tourne beaucoup. Et il y a quand même quelque chose qui s'appelle descriptif du voyage. Et alors c'est dommage que vous ne le voyez pas.
Non, mais ça va bien.
Un jour, on va y arriver. C'est que là, le descriptif du voyage, il y a au bas mot, je dirais peut-être, 6 000 ou 8 000 signes. Vous voyez ce que c'est? Enfin, c'est-à-dire, comme ça, vroom, sur une page. Pas de saut de ligne, pas d'inter, pas de truc, rien. Voilà. Et là-dedans, vous allez apprendre que l'hôtel machin est situé à 3 km. Voilà. En fait, l'argumentaire n'est qu'un prétexte ici pour vous rassurer. Tout ce rédactionnel, ce qui s'appelle rédactionnel dans ce cas-là, c'est juste vous rassurer, vous dire « Oh là là, regarde, c'est pas cher, tu vas au soleil et tu pars et c'est vachement facile pour acheter ton voyage. Si tu veux te rassurer, regarde toute la doc que je te donne. » C'est à peu près quand on vous dit, on vous sort un bottin en vous disant « D'ailleurs, les études le prouvent. » Et on vous met le truc sur la table, là, personne ne va l'ouvrir, mais ça rassure. Voilà. Donc c'est une technique pour vendre des voyages. Ensuite, l'autre écran que je vais mimer, c'est celui de... Escurcia. Donc, Escurcia, c'est une petite boîte qui travaille avec le Musée national d'histoire naturelle, qui est labellisé tout de suite. Et ça propose des voyages scientifiques. Donc, c'est vraiment, c'est partir en Guyane, non pas au Club Med, aller au bord de la piscine, mais c'est partir en Guyane pour étudier la faune locale lors d'un voyage. Et donc là, en fait, tout le propos est complètement différent. On vous capte dès la une par juste une image, mais surtout on vous capte par le fait qu'il y a un label et que c'est sérieux. Et ensuite, à l'intérieur, quand vous rentrez dans le voyage que vous avez choisi, là, vous avez il y a eu un vrai effort qui est porté justement là sur l'argumentaire. Et là, on va tout vous dire. On va vous dire jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, ce qui va se passer tous les jours. On va vous dire vraiment où est située la zone avec une carte, etc. On va vous donner vraiment tous les détails. On va même jusqu'à vous donner, non seulement le prix, chouette, mais surtout le CV de votre guide accompagnateur, qui en général est un thésard ou un chercheur spécialisé sur la faune en question. Et ensuite, vous pouvez bien sûr commander votre voyage ou demander un devis, etc. pour acheter ce voyage. Et donc, vous voyez que là, le déroulement du propos n'est pas du tout le même. Enfin, vous le voyez, vous me faites confiance. Donc, on est plus sur quelque chose de... vous rentrez dans quelque chose. C'est beaucoup plus cher. Donc, ça va demander un écran. Mais c'est pas le même. Ouais. Donc, ce cursus-là, si ça marche. Donc, tadam, ça va arriver. Donc là, voilà. Là, si vous voulez partir au bord du lac Titicaca, c'est pas juste pour vous faire bronzer sur les berges du lac, mais c'est bien pour découvrir les hommes et les dieux du lac Titicaca. Donc, je centre un peu. Voilà. Je veux du son, non, ça va. Alors, je vais rentrer directement chez Titi Caca. Je vais vous montrer du voyage. C'est pour vous montrer, vous voyez que là, le label, hein, le label du musée est apparent assez rapidement. Donc j'ai cliqué sur le lac Titi Caca et normalement apparaît un descriptif de voyage assez conséquent. Bon, bref. Donc, ce descriptif, c'est quelque chose qui est vraiment sérieux. Alors, je peux réserver ce voyage, hein, mais surtout, je voudrais descendre un petit peu. Oh, c'est pour descendre. Je t'ai fait réserver. Donc là, vous avez ce que je disais, donc le descriptif des jours, hein, de votre... Voilà, donc je vous le fais rapide. Et si vous voulez voir précisément ce qui se passe le jour 6, vous pouvez. Mais au moins, d'un premier coup d'œil, vous voyez à peu près où vous allez et vous pouvez vous balader. Et alors, donc vous avez la zone, hein, pour ne pas vous perdre, si jamais même d'ici. Vous avez les points forts. Et puis, vous voyez qu'ici, à chaque fois, donc les infos pratiques, le tarif, la galerie photo, parce que ça va vous en mettre un peu plein la vue, ce que vous allez voir, etc., etc. Et puis, vous allez terminer par, voilà, l'accompagnateur. Voilà. Donc, vous ne partez pas n'importe où, vous ne partez pas avec n'importe qui, vous partez avec ce type-là, qui est docteur en anthropologie. Voilà. Donc, et alors du coup, peut-être réussir à vous monter de promo vacances, qui est donc un autre univers. Elle est là. Incroyable. Et là, c'est pas pareil, vous voyez. Donc, vous voyez, l'histoire de captation, là, on est sur du République dominicaine, Guadeloupe, île Maurice, tatatitatata, bon plan pas cher, etc. Et que si je vais en Guadeloupe, voilà, on va me dire que donc j'ai cliqué sur mon petit cocotier, mon petit palmier avec ma mer bleue, et bah voilà, je retrouve, hein, un super truc, voilà. Voilà l'argumentaire sur lequel on va me demander de me décider, en fait, pour choisir. Pourquoi il ne marche pas pareil que sur le mien ? Pour choisir mon produit. Hop, si je reviens un peu par là. J'ai une petite visite virtuelle, éventuellement, et je vais descendre encore un tout petit peu pour vous montrer le truc qui était... Voilà. Voilà. Après, vous avez ça. Vous voyez ? Et je mets quiconque au défi de lire ce genre de truc. C'est quasiment impossible. Et donc, on vous demande toujours d'obtenir un devis, d'acheter maintenant. Donc, tout ça pour vous dire, en fait, que sur la même problématique, vous avez plusieurs réponses possibles et que vous construisez et vous bâtissez tout votre contenu éditorial en fonction... de ce que vous voulez dire. Il y a d'un côté, il faut que j'écoule mon stock de vacances pas chères, donc je capte, j'essaie de vendre rapidement. Et de l'autre côté, j'ai pas beaucoup de... Enfin, je veux dire, Excursia, il ne doit pas y avoir 250 voyages, hein, parce que c'est quand même lourd à organiser. Donc j'ai peut-être, je ne sais pas, 25-30 voyages dans mon catalogue, mais il faut que je conclue rapidement. Il faut que je les vende, voilà, et que je les exploite bien. Voilà. Alors, je reviens sur mon petit truc. Je vous fais comme ça. Comment je reviens sur la slide? Je clique dessus. C'est pas ça. C'est pas grave. Okay. Alors, donc voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, soit on porte l'effort sur capter l'attention pour mon vacances, youpi, viens voir comme c'est bien chez moi, soit sur argumenter. Vous allez passer des vacances valorisantes, vous êtes des gens intelligents, prenez la peine de vous poser et de lire ce que je vous raconte. Voilà, donc tout ça pour vous dire que donc, cette histoire, c'est vraiment pour dire que un site, voilà, pour que le contenu soit efficace, ce que je disais au début, et que le site soit lu, il va falloir vraiment prendre en compte le lecteur. Donc c'est-à-dire lui, voilà, lui parler, s'adresser à lui, lui laisser le temps de lire, alors lui laisser le temps qu'on a parti, hein, c'est-à-dire promo vacances, c'est super rapide, d'accord. Et Excursia, ben, faut un peu plus de temps pour poser, etc. Et ensuite, lui laisser la parole, entre guillemets, c'est-à-dire là, ben, obtenir un devis, acheter le voyage, mais ça peut être aussi lui permettre de contribuer, de laisser des photos, etc., etc. Et voilà. Et d'ailleurs, j'arrive là. Donc du coup, voilà, quand on conçoit un site et qu'on le conçoit au niveau éditorial, on réfléchit à vraiment un axe, hein, qui est double, qui est à la fois la conception de la page, hein, donc comment je vais pouvoir articuler mon information sur une page. Je dis une page, il peut y avoir peut-être une page longue ou deux pages. Et ensuite, comment j'organise une information de page en page, hein, et qui va donner une vraie lecture du site. Et à quelles conditions le lecteur en sort satisfait. Typiquement, par exemple, quand on travaille donc chez des clients et qu'on regarde ensuite les statistiques, ce qui est intéressant à regarder, c'est les statistiques de sortie du site. Et c'est de savoir quand sont sortis les lecteurs, sont sortis du site, sur quelle page, pour savoir si c'est une page où il est prévu qu'ils s'en aillent, parce qu'ils sont passés à l'acte, parce qu'ils ont fait quelque chose et qu'ils ont globalement eu ce qu'ils venaient chercher, ou s'ils ont laissé tomber le propos en milieu de lecture qu'on avait construite. Là, c'est intéressant de voir si on a réussi à construire notre affaire ou si y a un truc qui ne va pas et les gens s'en vont au milieu et ne vont pas jusqu'au bout là où on voulait les emmener. Et voilà. En fait, c'était un peu ma conclusion.
Moi, j'ai une question pour commencer. Comment est-ce que tu sais scénariser? Tu disais il faut que je m'assure que la personne aille jusqu'au bout du scénario. Est-ce que d'abord je le fais au pif et ensuite je fais les tests utilisateurs, ou est-ce que tu t'appuies sur une expérience, et comment est-ce construit?
Les deux en général. Donc effectivement, il y a une expérience, puisque disons que la scénarisation, ça fait un bout de temps qu'on est dessus et qu'on réfléchit dessus, et qu'on voit, en fait, c'est pas ce qui marche ou ce qui marche pas, mais c'est vraiment de quand un client donne ses besoins et dit voilà, il faudrait que mes clients à moi, ou mes adhérents à moi, ou mes machins à moi, je puisse les emmener à faire ça, adhérer à mon association, acheter ma tondeuse à gazon ou je sais pas quoi. Nous, on essaie d'imaginer, on essaie d'imaginer, mais on va aussi beaucoup, enfin du coup moi, interviewer les gens. Par exemple, si c'est de la tondeuse à gazon, j'irai interviewer les gens qui vendent des tondeuses à gazon dans les magasins, pour savoir comment se passe l'achat. Quelles sont les questions que posent les gens avant d'acheter une tondeuse à gazon? Et effectivement, est-ce que le type qui a l'habitude d'acheter sa tondeuse à gazon, il va aller directement au rayon machin, ou est-ce qu'il circule, quel niveau d'information ils ont besoin en vrai pour acheter une tondeuse à gazon? Et ça, après, on essaie de le reproduire, avec toutes les guillemets possibles, sur Internet, sur le site pour acheter la tondeuse à gazon. Donc il y a ce côté expérience, et puis après effectivement on essaie de voir dans le suivi du projet, au bout de 4 mois ou 6 mois, de regarder les statistiques sur le site, en essayant de voir si effectivement notre raisonnement marche, et que les gens sont bien allés jusqu'au bout de ont acheté leur tondeuse à gazon ou pas. Voilà, donc effectivement, c'est beaucoup les deux.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez d'une navigation à la Wikipédia, c'est-à-dire qu'on a du texte et puis on a des liens textuels, et c'est un peu la libre appréciation de l'internaute. Et est-ce que c'est transposable à un site marchand comme Promo Vacances, qui sera un mix entre Promo Vacances et Scursia, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la formation directe et la formation complète?
Alors, sur la question plutôt, on va dire la question des liens, c'est vrai, j'en ai pas beaucoup parlé. Wikipédia, c'est un fonctionnement un peu particulier, mais sur les liens, précisément, à mon avis, lorsqu'on met des liens dans une page, ils ont tous un propos, enfin, ils portent quelque chose. Donc, il faut absolument, à mon avis, soit ce sont des liens qui sont des poursuites de lecture, justement, et on revient sur la scénarisation, c'est-à-dire j'ai un bout du sujet qui est abordé, puis j'ai quelques liens pour poursuivre la lecture, mais j'annonce, enfin, je cadre bien ma lecture, et j'annonce à mon lecteur qu'il reste bien sur le site et qu'il va voir les autres, un peu, en fait, comme le site de Géo, c'est des liens Internet. Soit c'est de l'enrichissement de lecture, on va dire, et on va envoyer les lecteurs ou les internautes ailleurs, pour enrichir, c'est un peu ce que fait aussi Wikipédia, en fin de page, il y a les liens internes, sur les autres termes qui sont développés dans Wikipédia, et en dessous, les ressources externes qui vont permettre d'aller voir sur d'autres sites ce qui se passe, pour enrichir l'information. Donc je pense que, si c'est ça la question, il faut vraiment qu'on puisse distinguer vraiment fortement les deux types de liens. C'est pas parce que c'est un lien hypertexte que ça a la même valeur. Donc il y a un lien qui est poursuite de lecture sur le même sujet dans le site, et d'autres liens qui sont je sors et je vais enrichir ma lecture ailleurs. Mais à chaque fois, et je pense que c'est vraiment important, surtout sur les sites externes, il faut pouvoir les qualifier. Hein, quand on incite quelqu'un à quitter son site, il faut aussi lui dire où il va aller et pourquoi on pense que c'est bien qu'il aille là-bas, voir là-bas si j'y suis, hein, grosso modo. Mais voilà, c'est pas juste mettre un lien, genre cliquer ici, hop, ouais, super. Cliquer ici, on ne sait pas où on arrive. Voilà. Donc les liens, effectivement, les liens, ça marche à l'intérieur d'un sujet, pour vraiment faire le tour, hein, global, et pour une poursuite de lecture externe. Est-ce que c'était ça votre question ? D'accord.
Voilà, voilà.
On reste bien sûr dans la logique de que l'internaute reste sur le site. Donc c'est plus pour le garder le plus longtemps possible, si on veut le garder le plus longtemps possible, ou le faire aboutir à un cycle de vente. Mm-hmm. Et donc c'est ma question et mon raisonnement, c'est est-ce qu'on peut adapter la logique Wikipédia à un site marchand ?
La logique de collaboration de Wikipédia ?
Parce que je
ne vois pas quelle est la logique de Wikipédia que vous pointez.
Par le contenu, ouais. Donc d'attirer par le référencement naturel, par exemple, et le garder le plus longtemps possible, et avoir à la fin donc, un acte commercial. Mm-hmm. Donc soit c'est un acte commercial interne au site, donc on a un produit avant, soit c'est un acte commercial d'un lien sponsorisé, parce qu'on en sortirait. Mm-hmm. Et donc, il y a des portails qui ont une logique qui sont sur le trafic et donc de clics. Donc ça, c'est amplifier ce phénomène. Et qu'est-ce que vous proposez pour faire ça ? Est-ce que je suis clair ?
Je vois pas en fait. je comprends pas la. Je comprends l'histoire de. Ce que je comprends pas, c'est par rapport à Wikipédia, qui pour moi est un outil collaboratif avant tout, avec un contenu.
Vous avez énuméré deux sites, Promo Vacances, que je connais bien.
Ouais.
Et Cursor, que je connaissais pas. Ouais. Ok, Promo Vacances, on est en acte de vente très fort. On a tout de suite le produit. On va dire en moins de deux clics, on est dessus. Quand on n'est pas un site marchand, qu'on est un portail d'information.
Et qu'on doit développer du contenu pour arriver à un acte marchand, c'est voilà. Ça la question en fait. Ouais, tout à fait. Je pense que par exemple, le roi Merlin fait ça assez bien. Je ne sais pas si c'est du roi Merlin. Par exemple, le roi Merlin, il y a une logique de catalogue. Donc effectivement, pouf pouf, hein, vous cherchez une ampoule basse consommation, hop, vous allez la trouver. Il y a aussi une logique chez le roi Merlin de conseil. Et en fait, de conseil et de dossier. Et par exemple, vous pouvez avoir vraiment quelque chose qui est un dossier autour de l'économie d'énergie, par exemple, où vous allez avoir les tenants, les aboutissants de l'économie d'énergie et, in fine, aussi une ampoule basse consommation qu'on peut acheter. Ou alors, c'est effectivement, vous avez une autre logique et une logique de conseil, c'est, je ne dis pas comment bien changer son ampoule, mais qui est aussi dans un registre très de contenu rédactionnel et qui est vraiment là, pour le coup, d'aide. Donc, quand on va sur le roi Merlin, on sait qu'on a des conseils pratiques qui vont nous aider à réaliser, à poser du papier peint ou je ne sais pas quoi, et qu'in fine, je peux même l'acheter. Et je peux non seulement acheter le papier peint, mais la colle à papier peint, et etc., etc. Mais je suis passée, effectivement, je suis peut-être passée par 2-3 pages de conseils, hein, avant un acte d'achat. Mais du coup, l'acte d'achat, il est vraiment... Il est réfléchi, il est raisonné. Hein, plus que... Enfin, parce que je suis rentrée dans une logique où je suis un peu paumée, il me faut un conseil, qui n'est pas la même logique de « j'ai besoin d'une ampoule, je vais chez le roi et je la prends ». Donc effectivement, et je pense qu'il est bâti, ce site-là, je ne sais pas moi qui l'ai fait, mais je pense qu'il est vraiment bâti sur la logique des magasins Le Roi Merlin, de ce côté très conseil, assistance, qui font en vrai, et qui reproduisent sur le site.
Juste une petite remarque sur la politique de lien, c'est une question aussi de décision marketing. Je pense qu'il y a des boîtes qui n'ont pas très envie qu'on fasse des liens vers l'extérieur parce qu'elles ont l'impression que tant que la personne est là, elle ne sait pas fermer sa fenêtre, ce qui est une aberration. Elles ont aussi l'impression qu'en ne faisant pas de lien vers l'extérieur ou en ne proposant pas de forum, par exemple, où les utilisateurs vont commenter les produits, au moins elles sont sûres qu'on ne dira pas de mal. C'est une aberration parce qu'il vaut mieux avoir deux modérateurs et des clients qui fournissent du contenu plutôt que d'avoir des équipes rédactionnelles assez étoffées. On voit par exemple Amazon, ils se débrouillent très très bien de ce côté-là parce qu'ils ont le courage marketing, si vous voulez, de, de, de laisser les utilisateurs dire « j'ai pas aimé ce produit, voilà pourquoi ». Eux, ça les aide en politique qualité, et en plus, ça leur permet de donner aux utilisateurs l'impression qu'on se moque pas d'eux.
J'ai une question ici. Oui, bonjour. Par rapport à ce que vous disiez sur la structuration des propos sur un site, vous disiez qu'il faut un début, un milieu, une fin. Justement, enfin, je voulais avoir cette précision. Est-ce que justement, sur la fin, il ne faut pas au contraire laisser ouvert, puisqu'on dit il faut que l'internaute puisse prendre la parole, puisse être actif, puisse s'exprimer. Alors que dans ce que vous disiez tout à l'heure, on a l'impression que l'article ou le propos ou l'information, elle est fermée complètement avec cette fin définitive, quoi.
Oui, en fait, je me suis mal exprimée. Mais effectivement, ce que je veux dire, c'est que quand on arrive en fin de lecture, on ne peut pas tomber sur une impasse avec rien. Et donc, il faut effectivement d'abord qu'on sache qu'on a terminé. Il y a deux choses. Il faut qu'on sache qu'on a lu l'intégralité d'un dossier, par exemple. Je prends un dossier technique, ou voilà. On a lu l'intégralité d'un dossier. Et ensuite, donc, il faut qu'on ait un... l'information, à mon avis, quand même, à un moment, elle mérite d'être un tout petit peu figée quand on conçoit et quand on veut dire quelque chose. Il y a un moment où on s'arrête de parler. Bon. Donc on s'arrête de parler, on le fait savoir, et ensuite on donne la parole, effectivement, ou pas. Mais je pense qu'il vaut mieux donner la parole à ce moment-là au lecteur, que ça soit effectivement sous forme de contribution, sous forme de ou d'acte marchand, qui est aussi un passage à l'acte. Est-ce que c'est contradictoire ce que je viens de raconter ou...
Parce que je pense à ce travers ou ce tic qu'on trouve beaucoup sur les blogs, par exemple, où à la fin de notes ou de billets, on trouve toujours la petite phrase « Et vous, qu'en pensez-vous ?» d'interrogation, et on invite en fait le lecteur à... Bon, évidemment, sur des sites marchands, c'est sans doute pas applicable, mais justement, je vais vous demander « Et vous, qu'en pensez-vous » Qu'en pensez-vous de ça, c'est-à-dire d'ouvrir ensuite à la fin d'un article le débat.
Alors après, c'est une politique éditoriale, mais je pense que là on est dans un rapport au lecteur qui a complètement explosé. Enfin, en parlant des journalistes par exemple, jusqu'à présent c'était j'écris mon article, point, il est publié, au revoir, je m'en vais, c'est bon. Là on est dans un rapport avec l'audience, c'est Patino là, qui est donc le rédacteur en chef de Télérama, qui parle d'audience, voilà. On est en rapport avec des gens qui, de toute manière, prendront la parole, qu'on la leur donne ou pas. Et ils la prendront, par exemple, sur un site marchand. Ils la prendront pas sur le site marchand, mais ils vont la prendre à côté pour dire que le dernier Mac, ça va pas, ou j'en sais rien. De toute manière, ils la prendront. Je dis ça au hasard. Donc, à un moment, je veux dire, après, c'est une politique éditoriale, mais de manière générale, il ne faut pas oublier que le lecteur ne peut plus rester passif et ne se contente plus d'être juste face à quelque chose qu'on lui envoie, quoi. Et qu'à un moment, il va rentrer dans la danse et il va participer. Donc, c'est quel degré d'intervention on lui laisse. Ça, c'est aussi des choses qui se maîtrisent. Quel libre arbitre on lui laisse dans sa lecture et quel degré d'intervention dans le processus de l'information on lui laisse. Ça, c'est des choses qui sont en mutation, en processus, et c'est ça qui est intéressant.
Alors, une petite question ici, une là, et puis après, on va clore. Merci.
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'était plus une remarque qu'une question, en fait. On a beaucoup parlé de l'aspect architecture de l'information. Il me semble qu'il y a un autre aspect aussi qui est important d'évoquer sur les contenus, c'est aussi l'aspect rédactionnel. Parce qu'en fait, on n'écrit pas sur le web comme on écrit sur le print, par exemple, pour différentes raisons. Certaines sont qu'on n'a pas la même lecture sur un écran que celle qu'on a sur le papier, ce qui suppose donc d'avoir des contenus un peu plus concis, et notamment en termes de navigation, on peut naviguer, je dirais, de manière hypertextuelle sur le web, ce qu'on ne peut pas faire sur un support papier, par exemple. Donc j'aimerais savoir ce que vous pensez là-dessus, et sur le fait qu'on n'écrit pas de la même manière sur un site web, on ne s'exprime pas de la même façon.
Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on n'écrit pas sur le web et sur le papier de la même manière, tout simplement parce que c'est deux supports différents, que la luminosité ne vient pas de la même endroit. Donc on a une lecture. Le lecteur, Il faut toujours penser au lecteur. Le lecteur, enfin, il y a une lecture contrainte sur un écran, c'est pas aussi naturel que sur du papier. Le papier, on le prend, je veux dire, on va aux toilettes avec. Bon, maintenant, avec les portables, on peut, mais c'est moins convivial. Mais voilà. Donc, c'est quand même un objet familier, le papier, et pas l'écran, je suis d'accord. Donc, effectivement, on va adapter une écriture. Par contre, on va adapter une écriture, je pense. On va dire au niveau de l'editing, hein, on va sauter vraiment, on va faire des vrais sauts de ligne pour laisser du blanc, ce qu'on ne fait pas en presse, pour laisser respirer justement, pour que la lecture se pose, pour pas qu'on soit assommé par 20 000 signes sur une seule colonne. Par contre, je ne suis pas sûre qu'on écrive plus concis. C'est-à-dire que je pense qu'on peut tout à fait lire des textes longs sur Internet. Hein. Je peux lire 10 feuillets sur Internet. Si c'est bien écrit, que ça m'intéresse.
Le confort de lecture est quand même pas le même que celui sur le papier.
Je suis d'accord. Mais si ça m'intéresse, je lis n'importe comment. Non, mais je vais dire que le confort de lecture n'est pas le même, c'est sûr. Mais par contre, on est au niveau de l'editing toujours, c'est-à-dire les titres, les chapeaux, etc. On est encore plus contraint sur Internet de faire que le titre est un vrai titre. Un vrai titre qui dit quelque chose dans les trois premiers mots, on va dire. Et que du coup, par exemple, les titres à la jeu de mots de Libération, Libération fait beaucoup de jeux de mots, hein, genre bon, super drôle, ça tombe en général complètement à plat sur un site, d'ailleurs ils le font pas sur leur site, parce qu'il n'y a pas cet environnement-là et qu'on a besoin d'avoir une vraie information assez rapide, hein, titre, chapeau, intertitre. Voilà. Mais par contre, on garde, enfin moi je suis vraiment d'avis, de vraiment garder tout ce qui a fait la richesse de la lecture en presse, hein, qui est tout ce savoir-faire que des secrétaires de rédaction qui savent faire un vrai titre pour faire rentrer le lecteur dans un papier, qui savent faire des intertitres pour rythmer une lecture, etc. etc. Ah ouais, tout à fait. Mais on n'écrit pas pareil, mais on va devoir se réapproprier quand même des choses que la presse a mis en place depuis quelques années, qu'elle ne s'est pas vraiment adaptée sur le web, mais qui sont à mon avis très très utiles.
Oui, moi ça m'inspire, enfin, je voulais répondre aux questions sur Wikipédia, sur les liens, etc. Je crois qu'en fait, ce qu'on peut résumer dans ce que tu dis, c'est qu'à partir du moment où tu ne prends pas le lecteur pour un con et que tu lui donnes de l'information, tu peux ouvrir ton site avec des liens en disant « Mais moi, je trouve que l'information que je te propose d'aller voir sur le site d'à côté, elle est intéressante et c'est ma... et soit, je suis crédible et tu as confiance. » Et donc, si effectivement l'information que tu vas trouver sur le site d'à côté, tu la trouves intéressante, tu reviendras sur mon site parce que tu m'as fait confiance. Et je crois que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est donner confiance au lecteur et arrêter de vouloir mettre du contenu pour mettre du contenu. C'est-à-dire, mettons un contenu qui intéresse le lecteur. Ce n'est pas la peine d'avoir 10 000 signes s'il n'y a rien dans les 10 000 signes.
Ouais, tout à fait. Un portail, ça veut dire un portail va devenir une référence, effectivement, par sa crédibilité. Et si l'information vers laquelle on a dirigé le lecteur est effectivement intéressante, il va revenir sur le portail parce qu'il sait que là, il va être bien aiguillé et de manière intelligente.
Voilà, et bien nous avons fini pour ce matin. Merci beaucoup, Michel. Merci. La hola pour Michel. Voilà, j'ai deux petites choses pratiques à vous dire. Un, n'oubliez pas la petite boîte à questions. Deux, 13h30 pétante. Voilà. À tout à l'heure.